Alors vous voulez vraiment ok. Alors j'aurais cité une autre citation de Baha'u'llah à propos de la consultation. Il dit que la clé de la compréhension, qu'il y a deux piliers de la compréhension ou de l'entendement. Et il dit ces deux clés sont la compassion et la consultation. Alors, je pense que à prime abord, ça semble très difficile à comprendre comment la compréhension ou l'entendement pourrait être basé sur la compassion et la consultation. C'est-à-dire, on aurait pu penser qu'il dit la recherche de la vérité ou la raison ou l'expérience ou je ne sais pas quoi. Tu veux le lire, tu l'as? Oui, alors, pensons d'abord un peu à propos du savoir. Qu'est-ce que c'est le savoir? Ce qui ne fait aucun doute, c'est que depuis notre naissance, évidemment, à la naissance, nous n'avons même pas la conscience qu'on existe, n'est-ce pas? La conscience nous vient après quelques années d'expérience de vie. Et nous savons que, d'une part, nous avons des capacités, comme l'intellect et tout ça, qui nous sont données, qui sont latentes, mais qui sont réels, n'est-ce pas, qui font partie de l'âme humaine. Mais que ces capacités sont développées au travers des interactions entre l'enfant et son environnement, y compris l'environnement humain, bien entendu. C'est-à-dire sa mère, les autres personnes humaines et son environnement d'une façon générale. Autrement dit, la compréhension est acquise par l'éveil de la capacité intellectuelle de l'enfant, de la personne. Et cet éveil se fait progressivement, par conséquent, à des interactions constantes entre la configuration initiale, qui est l'enfant présent, et son environnement. On pourrait même dire que la vie, notre vie, le contenu, si vous voulez, de notre vie, c'est une série d'interactions. C'est une série d'interactions. Et donc, si on peut dire même que notre vie, c'est la somme de toutes les interactions que nous avons eues. Ça veut dire que la configuration initiale, bien entendu, les capacités latentes, plus la somme de toutes les interactions, ça fait ce que vous êtes maintenant, ce que vous êtes maintenant. Donc, nous sommes le résultat, si vous voulez, de nos interactions. Et qu'est-ce que nous faisons? Comment est-ce que ça marche, les interactions? Alors, nous savons que l'enfant commence, l'individu, commence à construire un modèle de la réalité. C'est-à-dire que son modèle, sa façon de voir la réalité peut être construite seulement à partir des informations que lui, il a. Et donc, ça dépend des informations qui sont données par sa mère. Bon, je vous donne un exemple très rudimentaire, mais je pense que ça explique assez bien. Supposons que, je prends deux extrêmes, supposons que l'enfant n'est pas bien traité. Supposons que soit par négligence, soit par mauvaise volonté. La mère néglige son enfant. Donc l'enfant pleure beaucoup avant que sa mère vienne le nourrir. S'il est sale, la mère va le laisser longtemps utiliser dans sa santé avant de le changer, etc. Alors il va faire une image du monde un peu comme suit. Le monde est un endroit où on a des besoins, mais où nos besoins ne sont pas facilement rencontrés. C'est-à-dire qu'il faut attendre, il faut quand même pleurer, il faut quand même faire beaucoup de bruit pour que nos besoins soient satisfaits. Si, encore pire que cela, si l'enfant est abusé, alors, nous n'avons pas parlé de ces choses-là, mais nous savons que ça existe quand même. Alors l'enfant va faire un modèle du monde un peu comme suit. Il va dire, mais le monde, c'est un endroit où on a des besoins et où ce n'est pas possible de satisfaire vos besoins. Et en plus, le monde est un endroit qui vous donne la douleur, non seulement le monde ne satisfait pas vos besoins, mais le monde vous inflige de douleur. Non? Parce que ça, c'est son expérience. Qu'est-ce qu'il peut dire autre que le monde? Parce que ça, c'est son expérience du monde. Si, par contre, l'enfant, la mère est bienveillante et tout ça, alors, l'enfant va faire un modèle, on pourrait dire un modèle robuste du monde, dans lequel l'enfant va dire à peu près la chose suivante, il va se dire, ben, le monde est un endroit où on a des besoins, où on souffre, mais où nos besoins sont satisfaits et nos souffrances sont soulagées. Donc ça serait un modèle plutôt positif du monde. Allons à l'autre extrême. Supposons que la mère est surprotectrice, supposons qu'elle court toujours auprès de l'enfant. Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu veux manger? Est-ce que tu as des besoins? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Etc. Alors, l'enfant va faire une image du monde un peu plus. Je suis le centre du monde. Le monde existe pour satisfaire à mes besoins. Et le monde s'intéresse à la satisfaction de mes besoins, et je n'ai que d'indiquer que j'ai un besoin, et ça va être satisfait. Le monde est là pour satisfaire à mes besoins. Alors ça va faire ce qu'on appelle un enfant gâté, n'est-ce pas? Et soit cet enfant va graduellement désapprendre, il va apprendre qu'il a d'autres personnes dans le monde qui n'est pas le sentiment, etc. Ou bien il va avoir une vie extrêmement difficile, parce qu'il va continuellement confronter la réalité qui va à l'encontre de son image du monde. Donc il aura, si vous voulez, de peine à accepter qu'il n'est pas le centre de l'univers, que les gens ont eux des besoins qu'il doit respecter aussi. Il va penser, il va être une personne qu'on appelle aussi narcissique, qui pense toujours d'abord à la satisfaction de ses besoins et pense rarement des besoins des autres. Tandis que l'autre enfant qui a fait l'image très négative du monde, que ses besoins ne sont pas satisfaits et tout ça, il va avoir énormément de peine, ou prenant l'enfant abusé, mais ça n'est pas plus de peine. Il va avoir énormément de peine à avoir confiance dans les autres, n'est-ce pas? Parce que son expérience de vie lui aurait appris que bon, les gens sont méchants, en fait. Les gens vous infligent la douleur. Donc, le monde n'est pas un endroit où vous pouvez pas faire confiance au monde. Donc, il va être une personne extrêmement méfiante, un peu antisocial, agressif, toujours sur le défensif, il aura énormément de peine, en étant adulte, à établir des relations humaines basé sur la confiance mutuelle, tout ça. Alors, je donne ça comme petit exemple. Et j'appelle ça le modèle intérieur que la personne construit du monde. Et donc, c'est tout le monde, c'est le monde affectif, le monde de l'action et aussi le monde des idées. Il a une certaine image du monde. Son esprit est comme une sorte de miroir sur lequel est gravée une image du monde, basée sur son expérience. Alors, même dans les meilleures conditions, même dans les conditions optimales, cette image que nous avons chacun du monde va être partielle et aussi fausse dans une certaine manière. Parce qu'il est inévitable que cette image serait inadéquate, c'est-à-dire qu'il manquera des informations, et aussi qu'il y aura des éléments qui sont carrément faux. Alors je vais juste dire pourquoi c'est le cas. Le côté inadéquat, je pense que c'est assez évident, n'est-ce pas, que nous agissons toujours sur information partielle. Nous ne savons jamais tout, n'est-ce pas, dans n'importe quelle circonstance. Et c'est pourquoi la foi ou le courage a toujours été considéré comme la base de la vie, parce que nous agissons toujours devant l'inconnu. Ça, c'est un fait irréductible de l'existence humaine. Jamais, jamais, jamais est-ce que nous agissons en face du connu total. Ça, c'est pas possible, d'ailleurs. D'ailleurs, la plupart du temps, nous connaissons l'inconnu est plus grand que le connu. Évidemment, pour une chose particulière, ça peut ne pas être vrai. C'est-à-dire, s'il y a un lion qui est là devant moi, je le vois, et je sais avec une très grande probabilité que le lion risque de m'attaquer, etc. Je ne peux pas être 100% certain, mais l'inconnu est assez réduite par rapport à ça. Ça devient un fait dominant qui remplit notre monde à ce moment-là. Ou si tout le monde a fait l'expérience que si j'ai un mal à la tête, je prends de l'aspirine, que ça s'en passe, ça le soulage. Alors je peux savoir avec une assez grande certitude si j'ai un mal à la tête actuellement, qu'en prenant une aspirine, ça va disparaître, n'est-ce pas? Ça peut évidemment ne pas arriver, mais je peux compter dessus quand même comme une sorte de vérité, du bon sens. Donc, mais l'inconnu est toujours là. Maintenant, évidemment, nous ne devons pas rester ignorants sur la même chose. C'est-à-dire, il y aura toujours l'inconnu, mais pas toujours l'inconnu sur la même chose. C'est-à-dire, nous pouvons progresser dans notre connaissance du monde. Nous pouvons remplacer, nous pouvons combler les lacunes. Ça repousse le frontière de l'inconnu, mais ça ne limite pas l'inconnu. Mais quand même, ça repousse la frontière de l'inconnu et c'est très important. La deuxième chose, les faussetés dans notre vision, provient surtout du fait que dans nos interactions avec le monde, nous sommes des créatures nécessiteuses, c'est-à-dire nous avons des besoins. Et donc, nous ne sommes pas simplement des observateurs dispassionnés du monde. Et à ce moment-là, nous voyons un peu le monde comme nous souhaitons que le monde soit, n'est-ce pas? Je dis, par exemple, on va vouloir supposer que la plupart des gens nous aiment. Quand nous avons une contre-indication pour que quelqu'un nous traite d'une mauvaise façon, nous allons essayer de trouver une explication pour ça, autre que le fait que nous sommes détestables et la personne nous déteste parce qu'il a découvert qu'on est détestable. C'est-à-dire que nous allons nous défendre de toutes les façons possibles avant d'arriver à une telle conclusion. Alors les psychologues appellent ça la projection. Nous projetons sur la réalité certaines choses qui ne sont pas là, mais que nous souhaitons là, n'est-ce pas? Et cette projection sur la réalité provient de nos besoins. Nos besoins, nous voyons la réalité au travers une sorte de lentille, et c'est la lentille de nos besoins, et ça fait des distorsions dans notre vision de la réalité. Donc, le progrès dans le savoir, le progrès dans la sagesse, dans la parole, c'est l'élimination, d'abord la découverte et l'élimination de ces distorsions, et aussi combler les lacunes, c'est-à-dire accroître l'adéquation de notre modèle. Et ça, c'est ce que ça veut dire, faire du progrès dans le savoir ou la connaissance ou approcher la sagesse, c'est d'avoir un processus par lequel notre modèle intérieur se raffine continuellement. C'est-à-dire qu'on est toujours en train, chaque jour, d'éliminer, d'assimiler des nouvelles informations, de compléter, de rendre notre modèle plus adéquat, et en même temps, nous sommes toujours en train. Nous sommes sensibles quand nous avons des retours qui nous indiquent que notre modèle n'est pas juste, que ça peut être faux dans certains aspects. Nous devons nous ajuster, nous devons éliminer ces choses-là, ces faux éléments de notre modèle. Alors si nous avons un processus qui nous amène au raffinement progressif de notre modèle, on appelle ça la transformation spirituelle, le développement spirituel, ou l'approche de la sagesse, ou gagner la sagesse. Enfin, les philosophes et les prophètes l'ont appelé de différents noms, mais c'est le même processus qui est décrit dans le Bhagavad. Maintenant, Bahá'u'lláh a dit que les deux piliers, si vous voulez, de ce processus, c'est la compassion et la consultation. Maintenant, je pense que ça dit plusieurs choses, en fait. D'abord, la compassion, ça nous dit que le processus est un processus de collaboration et non de concurrence, c'est-à-dire la vérité, ce processus de raffinement de notre modèle intérieur se fait beaucoup plus facilement en collaboration avec d'autres qu'en conflit avec d'autres. Pourquoi? Je pense que c'est évident, n'est-ce pas? Si nous sommes en conflit, nous avons un certain investissement dans notre petite vision du monde et nous ne pouvons pas apprendre des autres. Si je suis en conflit avec d'autres, la dernière chose que je peux faire, c'est accepter d'être enseigné par les autres avec qui je suis dans le conflit. Donc la compassion, le sentiment de communalité, compatir, c'est collaborer. C'est une motivation, c'est une émotion qui nous incite à collaborer, à voir de la même façon, à sentir de la même façon, à partager, si vous voulez, ce que nous ressentissons. Si je compatis avec vous, ça veut dire que je m'efforce, j'ai la volonté de sentir ce que vous sentez. L'empathie, oui, c'est ça. Donc j'ai la volonté de ressentir ce que vous ressentez. Et la consultation, eh bien voilà, par quel autre moyen allons-nous découvrir les faussetés dans nos modèles qu'en confrontant avec le modèle des autres personnes. Alors je m'explique un peu là-dessus. C'est évident, si vous voulez, vous pouvez penser à votre modèle intérieur aussi comme l'ensemble de toutes les croyances. C'est-à-dire, vous pouvez penser à toutes les choses dans lesquelles vous croyez, enfin, que la loi de gravitation, que l'herbe est verte, enfin, les choses les plus banales, jusqu'à l'existence de Dieu, la prière, tout ce que vous voulez, ok? Alors, j'appelle ça le système de croyance de l'individu. Donc, notre modèle intérieur, c'est aussi, c'est articulé sous forme d'un système de croyance. C'est l'ensemble des propositions que nous acceptons couramment, n'est-ce pas, comme étant vrai de la réalité. Alors, donc, pour répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, dans d'autres termes, nous savons qu'il y a des faussetés dans ces propositions. Nous savons que toutes nos croyances ne sont pas vraies. Mais nous ne savons pas lesquelles des croyances ne sont pas vraies, parce que si on le savait, on rejetterait tout de suite ces croyances. Autrement dit, nous n'avons pas une vision directe de la partie fausse de notre modèle, parce que pour nous, le modèle est la réalité. Ça, c'est très important. Ça, c'est la chose la plus importante. Donc, je dis encore une fois, nous n'avons pas, il nous est impossible de percevoir directement la fausseté de notre modèle, parce que pour nous, le modèle est la réalité. Comment la réalité peut être fausse? Donc, la seule façon de découvrir la fausseté de notre modèle, c'est une certaine dissonance entre la réalité et nos attentes dans la réalité. Et ces dissonances nous arrivent comment? D'abord, dans les déceptions que nous avons vis-à-vis de la réalité. Je me souviens, par exemple, quand j'avais à peu près 5 ou 6 ans, il avait un programme sur la radio, on n'avait pas la télévision, ça c'était le Moyen-Âge, n'est-ce pas? Mais il avait un programme Biff Baker.
À la radio.
À la radio, Biff Baker Space Explorer. Ok?
Yep.
Et puis c'était ce qui était le plus banal possible, mais enfin ça m'a enchanté dans les 5 années. Et moi j'entrepris de me construire un vaisseau spatial, hein, dans le cours arrière. Et j'étais réellement convaincu, je peux même aujourd'hui récupérer le sentiment que j'avais, j'étais totalement convaincu que ça allait marcher. Mais j'ai absolument convaincu. Pour moi, c'était la réalité et je n'avais absolument pas de doute. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'une fois que c'était terminé et je me rendais compte que ça n'allait pas voler, moi, j'ai accepté ça, j'ai dit, ok, je suis trompé, ouais. Mais pendant, c'est-à-dire avant d'avoir cette prise de conscience,
cette déception,
pour moi, ça faisait pas des rêves, et c'était aussi réel que n'importe quoi, n'est-ce pas? Alors, nous avons tous eu cette expérience, n'est-ce pas? Alors, pour être un peu plus précis, il n'est pas possible pour moi de dire je vois l'herbe en rouge, mais je sais que c'est vraiment vert. N'est-ce pas? C'est-à-dire, si je vois l'herbe en rouge, pour moi c'est rouge. N'est-ce pas? Il n'y a aucune façon que moi je peux me séparer de moi-même et dire je pense que ça c'est vrai, mais je sais que c'est faux. Parce que dès ce que je pense, dès ce que je sais que c'est faux, je ne pense plus que c'est vrai. C'est très important, ça. Dès que je sais que quelque chose est faux, alors je ne pense plus que c'est vrai. Donc, il n'y a aucune façon directe d'accéder à la fausseté, à éprouver, à tester notre modèle intérieur. Alors, il n'y a que des façons indirectes. Et dans la science, par exemple, la façon, c'est l'expérience et les théories, et tester les théories et tout ça, tout le procédé scientifique. Mais d'une façon plus générale, dans les relations humaines et dans les prises de décision quotidiennes et même ponctuelles, Nous avons besoin de quelqu'un qui est le pendant pour le scientifique de la méthode scientifique. Alors ça, je crois, est la consultation. La consultation, donc, ce n'est pas simplement l'échange d'opinions. La consultation, c'est une sorte de méditation collective où chacun énonce aux autres sa vision de la réalité. Ok? Et Abdu'l-Bahá, ce n'est pas le temps de passer tous les paramètres de la consultation. Mais d'abord, il parle de la franchise. Il faut être franc. Donc, je veux énoncer vraiment la réalité comme moi je le vois. Et je fais ça comme une faveur à vous. Autrement dit, je ne vais pas courber mon articulation pour vous plaire ou en anticipant que vous ne serez pas d'accord avec ma façon de voir. Ça, ce n'est pas la consultation. La consultation doit être franche. Mais la consultation, c'est la confrontation des opinions, des idées, mais non de personnes. C'est-à-dire, ce qui s'appelle communément la discussion n'est pas la consultation. La consultation se fait très rarement. La consultation dans le sens que parle l'auteur. Est extrêmement rare, la consultation. Ce que nous avons surtout, c'est des débats, des discussions, des échanges d'opinions. Et l'ère des opinions, ce qui est l'ère des personnalités, parce que chacun cherche en quelque sorte à défendre son opinion. Tandis qu'Adubra parle du choc des idées. L'étincelle de la vérité vient du choc des idées, pas des chocs de personnes. Et pas le choc des opinions. Le choc des idées. Donc, dans la consultation, il faut que chacun énonce son idée. Et tout le monde doit être ouvert à écouter les autres. Il doit être ouvert à la possibilité que sa façon de voir est soit fausse, ou partiellement fausse, ou incomplète. Et donc, nous avons un point focal de la consultation, c'est-à-dire on ne peut pas consulter parlant comment vous voyez l'univers tout entier, etc. On a un point focal. On morcelle les choses comme font les scientifiques aussi, ceci dit. Donc, on fait une hypothèse particulière par rapport à l'expérience donnée. Et donc, nous avons un sujet, un thème de consultation. Et autour de ça, chacun donne sa vision. Alors là, on commence, on continue donc de cette manière-là. Et graduellement, ce qui arrive, c'est une sorte de vision collective du monde, qui est plus riche que la vision de n'importe quel individu. Et qui en général est plus adéquate que la vision de l'économie. Maintenant, ça ne veut pas du tout dire que le consensus ou la vision du groupe va avoir une part égale de chaque contribution. Ça se peut qu'une personne, pour une consultation donnée, a contribué beaucoup plus à la vision collective qu'un autre. Mais la prochaine fois, ça peut être tout à fait autre. Et Jean-Guy Findy nous dit, d'ailleurs, par rapport à la consultation, que c'est souvent la personne la moins instruite qui donne une idée clé dans la consultation. Et nous avons tous eu cette expérience, enfin, nous savons. Ce qui doit nous rendre beaucoup plus humbles devant ce processus. Là, finalement, donc, le choix que j'ai, c'est est-ce que j'entre dans la consultation pour valider mes idées ou pour chercher la vérité? Alors, si mes idées ne sont pas entièrement valides, bien, je dois apprécier que je découvre ça, n'est-ce pas? Et donc, c'est un processus d'échange qui permet à un groupe de personnes de converger vers une vision plus plus adéquate et plus juste du monde et qui incarne tout ce qui est vrai dans la vision de chacun. Est-ce que ça garantit que la vision collective va être juste? Non, absolument pas. À moins de prétendre à l'infaillibilité, n'est-ce pas, de sauver la maison de justice, n'est-ce pas, ça peut être faux quand même. Mais la différence, c'est que si nous agissons sous cette vision collective, ça c'est la confrontation avec la réalité objective, et nous allons vite découvrir, dit Abu Baha, si cette vision collective est fausse ou non. Donc, encore une fois, parce qu'on est unis dans cette vision, ça c'est le côté compassion, collaboration, alors là, on n'est pas chacun en train de défendre notre petit point de vue. Alors donc, encore une fois, le processus va nous permettre de converger beaucoup plus vite vers la réalité objective. Parce que si nous agissons dans l'unité, ça ne marche pas. Enfin, par exemple, un petit exemple banal, mais je pense qu'il est très bien. Supposons, imaginons que nous consultons tous sur comment construire un pont au travers d'une rivière, par exemple. Et peut-être dans la consultation, vous êtes ingénieur. Oui, je sais. Ouais.
Technologue en génie civil.
Oui, alors attention à ce que tu
dis. Alors, supposons que dans la consultation, vous êtes ingénieur et vous savez pertinemment que la vision global, vous avez donné dans votre consultation toutes vos idées, vous avez expliqué en long et large votre point de vue, mais les autres n'ont pas accepté. Et finalement, on a décidé de construire le pont d'une certaine manière, et vous savez que ça ne va pas marcher. Alors, Abu Baha dit, il faut agir dans l'unité avec les autres, parce que ça va vous permettre de découvrir la réalité. Si vous avez raison, et si le pont ne peut pas se construire de la façon, tout le monde va le voir tout de suite. Ils vont essayer de construire le pont et ça ne marche pas. Donc c'est cette confrontation avec la réalité qui se fait dans la collégialité qui va permettre, tout le monde à ce moment-là dit, mais voilà, ça ne peut pas se construire de cette façon-là. Alors, et si le pont se construit, ben voilà, ça veut dire que, malgré toute votre expertise, vous avez tort là-dessus. Ça peut quand même faire de cette façon, parce que voilà, tu vois. Alors, c'est ça l'esprit de la consultation. Ce n'est pas dire que dans une consultation donnée, une personne peut ne pas avoir plus de compréhension que des autres, mais c'est un processus collaboratif qui nous permet tous d'arriver en fin de compte. C'est-à-dire, en fin de tout cet exercice, vous savez aussi quelque chose que vous ne savez pas avant, c'est-à-dire qu'on pouvait construire les ponts de cette manière-là. Parce que vous pensez toujours que ce n'est pas possible, maintenant vous savez que c'est possible, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire encore que c'est la meilleure façon de construire un pont, mais tout le monde a gagné, n'est-ce pas? Le pont est là, et tout le monde sait quelque chose. Alors, juste pour vous montrer à quel point Baha'u'llah donne de l'importance à la consultation, il a une tablette où Baha'u'llah dit la chose suivante. Il dit, et c'est une des tablettes assez précoces de Baha'u'llah, en fait, c'est une des premières tablettes de Baha'u'llah. Il dit, si vous devez prendre des décisions importantes dans votre vie, il faut réunir un groupe de personnes autour de vous. Et il dit, peu importe s'ils sont des Baha'is ou des non-Baha'is, n'importe quoi, ça n'a pas d'importance. Mais un groupe de personnes autour de vous qui sont des gens sincères, quand même, en fait. Il a dit jusqu'au nombre de Baha, c'est-à-dire jusqu'à 9 personnes, n'est-ce pas? Il dit il faut le soumettre le problème et il faut consulter la Bible. Et supposons qu'ils vous donnent, ils disent tous finalement, nous pensons que tu devrais faire de telle ou telle manière. Et tu n'acceptes pas ça. Tu n'es pas d'accord avec le consensus. Alors, ben, on l'a dit, il faut réunir un deuxième groupe. Ok. De 9 personnes. Et refaire la consultation avec ce deuxième groupe. Et si le deuxième groupe vient à la même conclusion, vous devez exécuter ça en sachant que c'est la volonté de Dieu. C'est par là. En sachant que c'est la volonté de Dieu. Donc, et ça c'était avant les assemblées, ça c'était pas des institutions établies de la foi et tout ça. Donc ça c'est le processus de consultation pure. Donc, dernière petite réflexion, pourquoi est-ce que cet outil qui semble tellement évident, dans une certaine mesure, a été si lent à venir à l'humanité? C'est-à-dire, pourquoi c'est seulement maintenant, au 20e, 21e siècle, que Baha'u'llah met en évidence l'importance de la consultation. Comment est-ce que ça fait que ça n'a pas été découvert, prescrit avant? Là encore, il a beaucoup à dire et je veux simplement dire que pour certaines raisons, et là encore une fois, je ne veux pas entrer dans les mains, mais pour certaines raisons, dans les anciens temps, les gens considéraient que la confrontation entre individus, le conflit, était une plus grande garantie de vérité que la collaboration. Alors ça se reflète dans toutes nos relations. Par exemple, dans la science, au début de la science, il y a 300-400 ans, quand un scientifique avait résolu un problème, au lieu de publier le résultat de son problème, il énonçait aux autres scientifiques, enfin, qui étaient toujours en premier, c'était les aristocrates, n'est-ce pas, parmi les aristocrates. Mais les gens se connaissaient, n'est-ce pas, ils avaient cette réputation. Alors, il annonçait son problème, il a dit, j'ai résolu ce problème, et je défie à quiconque de le résoudre. Donc, il faisait une concurrence de résolution de problème. Et bien sûr, s'il avait résolu le problème et les autres ne pouvaient pas, alors ça rehaussait encore son estime, n'est-ce pas? Alors à la fin de tout ça, il dit, personne ne peut le résoudre, voilà la solution, il donne la solution. Mais, dans d'autres cas, les autres trouvaient une solution, et à ce moment-là, il avait toujours des disputes, mais qui avait trouvé la première solution, etc., etc. Donc, ça faisait dans un esprit de concurrence. La première science, jusqu'à même... Jusqu'au XXe siècle, l'esprit dans la communauté scientifique était, dès le début et jusqu'à ce moment-là, un esprit de concurrence entre les scientifiques. Où on pensait que par ce soit de conflits et confrontations, que c'était la meilleure façon de trouver la vérité. Dans notre système juridique, c'est la même chose. C'est un système d'avocats, n'est-ce pas, où il a une deux parties qui s'affrontent, n'est-ce pas? Alors, ça origine avec la loi anglaise, c'est-à-dire la méthode anglaise, avec les interrogations, les contre-interrogations et tout ça. Alors, tout ça n'est pas dans le système baha'i de justice, encore une fois. La volonté de justice dans la foi baha'i, c'est la volonté de savoir la vérité. Pas de gagner ou de perdre, de faire perdre quelqu'un, n'est-ce pas, Et tout le monde se plaint maintenant du système de justice, que la justice est rarement faite. Si vous avez un bon avocat, vous gagnez. Si vous avez un mauvais avocat, vous n'y gagnez pas. Et ça, c'est comme ça. J'avais justement un élève qui était mon assistant. Il avait fait une maîtrise en mathématiques. Et ensuite, il a décidé de faire le droit. Et j'ai dit, pourquoi tu veux faire le droit? Parce qu'il était un très bon mathématicien. Et il a dit, bon, il dit pour moi, le droit c'est exactement comme la mathématique, sauf qu'il a un contenu spécifique, c'est-à-dire, en droit, vous trouvez des théorèmes, vous trouvez la vérité, mais c'est une vérité qui s'applique aux êtres humains. Alors, vous avez peut-être entendu parler de ce type, il s'appelle Jacques La Rochelle. C'est celui qui a défendu les nuls antiques. En tout cas, Jacques, je l'ai vu quelques années après, une fois qu'il avait du gros succès, justement, il avait défendu Denis Lorty. Denis Lorty, c'est le type qui a fait une fusillade, mais c'est ça. Et il a réussi à obtenir une diminution de peine pour Denis Lorty et tout. Alors, je l'ai vu une fois, enfin, j'ai dit, Jacques, est-ce que tu penses toujours que le droit, la jurisprudence, c'est trouver la vérité mathématique. Il dit non. C'est le plus fort qui gagne. Le but c'est de gagner, c'est rien d'autre. Et comme dernier exemple, dans la théologie, par exemple, la méthode traditionnelle dans la théologie, a été le débat contradictoire. Justement, c'est ce qu'on voit par exemple avec l'islam aujourd'hui, le débat contradictoire est la méthode qu'utilisent les ulamas et tout ça pour résoudre des problèmes. Et chaque ulama émet son avis, ils contredisent les uns des autres, et ils se bagarrent là-dessus et tout ça. Et puis, comme Abdullah dit, ça en finit pas, n'est-ce pas? Alors là encore, je te passe pourquoi c'est arrivé comme ça, mais ça c'était la méthode de débat contradictoire. Et justement, Baha'u'llah ne visait pas quand il a interdit le conflit et la confrontation dans la Fabari. Il visait entre autres cette méthode qu'avaient développé les ulamas. Donc, j'ai terminé, c'est-à-dire la consultation. C'est une méthode que Dieu nous a donnée pour aider à notre accession à la sagesse, c'est-à-dire au raffinement de notre modèle intérieur en collaboration avec les autres. C'est ça.
Tu réfines notre modèle par rapport au modèle des autres?
Par rapport à notre modèle ancien, c'est-à-dire améliorer notre... Raffiner, ça veut dire améliorer notre modèle. Notre modèle est un modèle de la réalité, c'est notre façon de voir le monde. Donc c'est que nous ayons une vision plus juste du monde que nous avions avant. Je n'ai pas du tout parlé de la concurrence entre des modèles différents, ça c'est une autre chose.
Mais souvent quand on consulte
d'autres,
c'est
pour
quand on vit une situation qui est pressante, qui est difficile, on est trop envahi peut-être par nos émotions.
Aussi.
On donne aussi, pas le pouvoir aux émotions qui nous habitent. C'est inconscient, ça. C'est juste la sagesse un jour qui va faire qu'on va donner moins de pouvoir, on donne trop de pouvoir à nos émotions.
Ou même ça peut être conscient. On sait qu'on est dans la confusion, en fait. Ça peut être même conscient. Je suis trop émotif pour voir clair, ça.
je compare ça, moi je suis individuel, je compare ça à quelqu'un qui perd sa planche à voile en pleine mer, puis il y a trop de nuages, il ne peut pas se fier au soleil pour voir dans quelle direction il doit revenir à la nage vers la plage. Alors il nage n'importe où, mais il y a quelqu'un dans un hélicoptère qui voit tout ça, puis il dit non, nage pas par là, en beau large, nage par l'autre côté.
Oui.
La plage est là, mais lui, il ne sait pas. Là. Il est trop perturbé, puis il n'y a pas de référence.
C'est
ça,
c'est
ça.
Un bon exemple. Oui.
Oui.
Oui. Assez d'informations.
On a de la difficulté aussi. J'emprunte des idées, je suis en train de lire L'art du bonheur de Dalai Lama. Je suis en train de lire ça, je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est à lire, là. C'est un psychiatre qui s'entretient avec le Dalai Lama. C'est un volume qui n'est pas trop dépendant. La sagesse de Dalai Lama, dans le contexte de ce soir avec nos discussions, c'est qu'on a beaucoup de difficultés à imaginer la réalité sous un autre angle. C'est exactement, on est trop, on focus trop sur la réalité que la situation nous amène. Mais on a beaucoup de difficultés à dire, ouais, mais ça pourrait-tu être autre chose? Est-ce que je pourrais voir ça autrement? À partir du moment où on se force ou on fait la tentative de voir la réalité qui nous habite autrement, si on est capable de le voir sous un autre plan, c'est là souvent qu'on peut de façon plus facilement passer au travers. C'est par contre une question d'objectivité. C'est la sagesse, là, c'est ça la sagesse, hein? C'est d'accepter que notre réalité elle peut être, autre que la vérité. Réalité et vérité, c'est deux choses différentes. Parce que la réalité, c'est subjectif. Et la vérité, ben, il y en a une vérité. La réalité, il y en a plusieurs, mais la vérité, il y en a une. Alors, comment...
Ben, je dirais, donc, modeur de la réalité sont différents. La réalité, je dirais, il y a deux aussi. Mais nos modèles, une autre vision de la réalité peut être différente.
C'est ça. Mais il y a une vérité.
C'est ça.
Il y a plusieurs modèles de réalité.
C'est ça.
C'est pas la concurrence quand même des fois peut encourager une certaine vérité à une recherche plus rapide ou vraiment une motivation pour la vérité.
Qu'est-ce que tu
Ben, par exemple, si quelqu'un est mis, par exemple, un scientifique est mis au défi de trouver ou est en doit trouver ou par concurrence ou par motif finalement de compagnie, etc., il va mettre plus d'efforts à raffiner le modèle de la réalité, de se rapprocher de cette réalité-là par ses efforts, par ses consultations, etc., que s'il serait tout seul là, qu'il n'y aurait pas cette situation. Tu comprends ce que je veux dire?
Oui, je pense que ça c'est vrai, ça s'est avéré vrai à court terme. Est-ce que c'est vraiment la meilleure méthode à long terme? C'est une autre chose. Parce que, d'abord, au tout début, c'était surtout l'ego ou le statut du scientifique, enfin, qui était en jeu. Maintenant, c'est plutôt une question économique de l'argent, c'est la concurrence entre les différentes compagnies, enfin, qui financent la recherche. Et bien entendu, ils parlent, ils disent, le plus grand retour pour leur argent. Alors, que ça marche à court terme, je pense qu'il n'y a pas de doute. Est-ce que c'est vraiment la meilleure méthode à long terme? Je ne crois pas, franchement, je ne crois pas. Parce que il y a un double ou triple apprentissage, c'est-à-dire on apprend à faire nos expériences et tout ça avec beaucoup plus de rapidité, si vous voulez. Mais on apprend aussi à tricher, à saboter les autres, n'est-ce pas, à confronter, on apprend à conquérir, n'est-ce pas. Et on prend un tas d'habitudes de relations humaines. Par exemple, je me souviens quand j'étais en Europe, à un moment donné, les Français, ils avaient une période où la France n'avait presque plus de prix Nobel, n'est-ce pas? Au début du siècle, la science était, la France était en quelque sorte en avance, en fait, avec Pasteur, avec Pierre Curie, Marie Curie, etc. On fait un pari, ce n'est pas le centre du monde scientifique et tout ça. Tout se passait qu'en Paris et beaucoup de prix Nobel étaient des Français et tout ça. À un moment donné, enfin, surtout après la guerre, la France a presque disparu de la carte scientifique pendant quelques années. Évidemment, on pourrait attribuer ça en partie au ravage des guerres et tout ça. Mais on m'a expliqué, on m'a dit une chose, et puis en connaissant les Français, je le crois bien, ils disent que, parce que le comité qui attribue les prix Nobel, eux, ils sont pas, ils sont tous des experts dans tous les domaines, donc eux, ils ont des délégués qui font des visites dans les laboratoires, n'est-ce pas, et bien sûr, ils vont pas demander le type A d'évaluer le travail du type, le type A lui-même. Quand ils vont dans un laboratoire, ils vont vérifier sur le champ ce que fait le type A. Ils vont aussi demander, mais qu'est-ce que vous pensez du travail de tel et tel type B, n'est-ce pas? Alors les Français, ils ont un esprit de, tel esprit de confiance en France que les gens sont démolissés. Ils disent, ah, mais c'est un con, c'est un fumiste, il ne sait rien, ce type-là, etc. Ils se descendaient mutuellement. Alors, tous les comités revenaient des bébés. Toute l'évaluation de ces autres types sont négatives, c'est seulement le type A lui-même qui dit que son travail est bon, tous les autres disent que c'est mauvais. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, la majorité dit. Et c'était vraiment comme ça. Parce que tout le système français est basé sur la concurrence.
La compétition, la concurrence, ça invite à l'individualisme.
C'est ça.
C'est le plus gros problème, je pense, actuel, c'est ça, l'individualisme.
En tout cas, tout ça pour dire qu'il n'y a pas de doute. C'est-à-dire, exactement comme je pourrais dire, si je te menaçais, si je menaçais à te tuer, si j'avais un fusil et je dis courir le plus vite possible, tu vas peut-être courir plus vite que si je dis si, s'il te plaît, cours le plus vite que tu puisses, n'est-ce pas? C'est-à-dire que mais est-ce qu'à la langue, ça c'est un bon méthode d'entraînement? Que de menacer la vie des coureurs, etc. C'est ça. Il n'y a pas de doute. Ça, c'est même un principe général. Je dirais, il est beaucoup plus facile d'obtenir des résultats de façon négative que de façon positive. Par exemple, l'unité. Dans le Foibray, nous parlons de l'unité. Alors, l'unité qui se fait ailleurs, en général, c'est une unité, c'est une solidarité vis-à-vis un ennemi donné, n'est-ce pas? En fait, c'est une bandioserie dans la politique, n'est-ce pas? Que dans un pays, oui, on cherche l'unité en démonisant quelqu'un d'autre, on a un ennemi, et on maintient l'unité vis-à-vis de cette unité. Mais nous savons, par l'expérience Baha'i, que l'unité dans la diversité, que nous les Baha'i nous essayons de faire, est beaucoup plus difficile à obtenir à court terme, n'est-ce pas? Mais c'est beaucoup plus rentable et stable à long terme, parce que c'est une véritable unité. Et quand vous avez ces unités fondées sur la négativité, sur l'opposition, aussitôt que l'ennemi disparaît ou la situation change, toute cette unité s'évanouit du jour au lendemain. On voit ça, par exemple, dans des groupes minoritaires. Je voyais ça souvent chez les Noirs aux États-Unis. Vis-à-vis des Blancs, les Noirs sont solidaires, ils s'appellent des frères et tout ça. Mais entre eux, ils se déchirent complètement. Absolument. Vous ne pouvez pas trouver... Il n'y a pas un Blanc qui traite les Noirs aussi mal que les Noirs se traitent entre eux. Mais vis-à-vis des Blancs, ils sont solidaires. J'ai vu la même chose un peu ici, pas aussi dramatiquement qu'avec les Noirs, mais avec les Canadiens français vis-à-vis des anglophones. Vis-à-vis des anglophones, les Canadiens français, ah, mais nous sommes un peuple, nous sommes ensemble, nous sommes tous des frères, etc. Mais entre eux, ils vont se déchirer. C'est pas, j'ai vu ça à l'université. Là. Ils se sabotent. Et
ça me surprit parce que j'ai eu une amie à mon avis, c'était une hôtesse de l'air de Chicago. C'était noire. Puis ça m'a beaucoup surpris. Elle disait qu'on les respectait plus. Elle dit les Noirs, mes amis noirs ne me respectent pas comme toi tu me respectes, comme les Blancs me respectent.
C'est ça.
On va à bonne de ma chaise. On les. Tu sais, son rough là, entre eux. Puis moi, je veux dire, la femme, qu'elle soit noire, haïtienne ou blanche, tu sais, c'est le même respect, là, c'est un être humain. Les noirs, les hommes noirs, pas généraliser, mais ils ne traitent pas les femmes noires de la même façon. Ils vont les. Leur font vivre des mauvais moments. Puis c'est comme, ce qui m'avait un petit peu choqué, c'est comme, quelque part, pour une femme noire, je ne sais pas si c'est une récompense, mais elle se sent dolorisée de se faire voir avec un blanc. Ça va jusque là.
C'est ça, oui. C'est ce qu'on appelle l'oppression internalisée. Mais en tout cas, juste pour dire que c'est vrai que le court terme, l'unité, la solidarité ou le progrès scientifique, tout ça, fondé sur ces genres de mécanismes, peut être productif à court terme. Mais je pense qu'à long terme, ce n'est pas stable.
Est-ce que c'est enlever des illusions?
Non, ça n'enlève pas des illusions, là. C'est juste que c'est un peu, il y a un mélange des deux, quoi, surtout dans le monde dans lequel on vit, vraiment. Moi, je suis un Bahaï qui essaye de vivre de manière Bahaï. Donc, si on vit dans un monde qui t'as de la pression, t'as des bosses, t'as des cris, il faut produire. Donc, t'as un peu les deux, mais tu peux voir que la concurrence donne des fruits, en tout cas. Mais je pense que, comme tu dis, à long terme, ça crée un milieu qui n'est pas trop sain. Vraiment, faire attention.
Puis le problème actuel, moi j'ai eu un emploi dernièrement au ministère, pas au ministère, mais au gouvernement fédéral. Que ce soit au gouvernement fédéral, que ce soit dans les compagnies d'assurance, les gens sont évalués au rendement. C'est complètement aberrant. Aux 6 mois, tu as des évaluations au rendement, puis tu as comme des critères. Tu sais, le rendement, là, ils vont prendre, évidemment, des résultats maximum, qui vont être évalués en fonction des résultats maximum. Tu sais, Patrick Roy, là, il en perd des games de hockey, des fois, il en gagne, il en perd. Mais de la façon qu'il évalue aujourd'hui dans les grandes entreprises, il faut toujours les gagner.
Il
n'y a pas de place pour perdre des gains. Il faut toujours que tu gagnes. Alors, ça devient, comme j'expliquais l'autre fois, tu as comme une volonté corporative de créer une synergie. Tout le monde s'aime, tout le monde travaille ensemble, tout le monde s'entraide. C'est pas vrai, c'est impossible. Chaque individu est évalué au rendement, donc il va chercher, lui, des façons de travailler pour être plus rentable, pour être plus rapide, pour produire davantage, puis il va garder ça pour lui. Aucune synergie là-dedans, au contraire. Il va être le meilleur, parce que s'il n'est pas le meilleur sur 10, il faut toujours qu'il se situe le premier, le deuxième, parce que s'il se situe à la fin, là, c'est dans l'évaluation, c'est quasiment dit, ou si c'est pas dit, tu sors, tu resteras pas dans les rangs, cherche-toi un job ailleurs. Tu sais? Alors,
J'avais un ami qui était dans l'informatique, et puis, quand j'ai passé une année en Suisse, lui aussi, en fait, c'était un Bahaï, c'était un Iranien, un Bahaï iranien. Et il faisait un postdoc, enfin, il faisait une année à l'Institut de physique à Zurich, en Suisse. Il venait surtout pour travailler avec une certaine machine qui, à ce moment-là, était à la fine pointe de la technologie dans tel domaine, je ne sais pas. Alors il m'a dit, c'est lui qui a raconté ça en fait. Il a dit, la première semaine que je suis arrivé à l'Institut, un jour, un type s'approche de moi. Il dit, je vais vous expliquer quelque chose. Il n'y a qu'une seule personne dans tout ce point qui sait exactement comment fonctionne cette machine. C'est moi. Et je n'avais pas de. Son année, il a passé toute une année sans jamais faire rien. Non, non, il m'a admis qu'il ne savait pas.
Oui, mais chaque
chose, c'est le même système. Qu'est-ce que tu veux? C'est exactement le même système.
C'est l'égocentricité.
C'est ça, mais il ne voulait pas que. Peut-être l'autre type, en apprenant comment faire la machine, va faire quelque chose que lui, il ne fait pas. Oui, c'est ça.
Ça, ça va beaucoup plus loin. Là,
oui,
je parle d'argent, là, les compagnies de finances. Donc, mais Exemple, j'ai écouté une émission hier sur les enfants, je crois que si vous l'avez écouté à 9h hier, les enfants qui sont mal aimés dans les écoles, pour quelques raisons que ce soit, à cause de la couleur de ta peau, à cause que tu as les oreilles décollées, les gens en masse décident de ne pas t'aimer. Les gens en masse décident d'être violents avec toi. Ça fait des enfants qui sont perturbés, ça fait des enfants qui sont en dépression, ça fait des enfants qui se suicident. Puis le tiers des enfants qui se sont suicidés avec eux, ils ont fait des recherches, ont vécu des traumatismes comme ça à l'école, ils ne sont pas acceptés, ils font le projet.
Puis, moi, ils deviennent le bouc émissaire, c'est le phénomène de bouc émissaire.
Puis mon amie, c'est ainsi Christine est enseignante. Puis elle reconnaît dans chacune de ses classes 2-3 élèves à chaque année qui sont à problème. Ils sont issus de familles monoparentales, ils sont issus de familles d'accueil. Ça fait 2-3 familles que le jeune fait, tu sais. Puis ils vont être très perturbés. Ils vont être très perturbants. Pourquoi? Parce que c'est des enfants qui sont malheureux. Ils crient au secours, ils crient. Tu sais, il y en a un, Kevin, dans cette classe présentement, il n'a jamais connu son père. Tu sais, le petit gars, il a 12 ans. C'est quoi qui est le plus important pour toi à 12 ans? C'est d'avoir un père, un modèle. De voir en avoir eu des pères dans des familles d'accueil que tu as eues, mais ton vrai père, il est où? Tu sais, en tout cas, sans faire une longue histoire, mais tout ce qu'ils ont dans les écoles aujourd'hui, c'est un travailleur social de temps en temps qui passe dans chacune des écoles puis fait des évaluations. Il n'y a aucun suivi. T'sais, ils font juste des évaluations. Ils appellent ça un TDS, en tout cas, je ne sais pas quoi, il y a un terme, ça veut dire que c'est un enfant problème. Oui, on ne fait pas avec. J'ai pas le temps parce que avant ça, il y a quelques années, avant qu'il fasse des coupures dans l'éducation, il y avait des psychologues attachés à chaque école. Ils faisaient des évaluations d'individus, mais ils faisaient des suivis aussi. Aujourd'hui, on fait des coupures, donc il n'y a plus de psychologues attachés à l'école. Il y en a qui se promènent, là, l'équipe volante. Tout ce qu'ils font, c'est sporadiquement, ils font des évaluations. Il n'y a aucun suivi. Alors regarde, c'est ça aussi. Ça revient à dire, il n'y en a pas de consultation, là. C'est pas de la consultation, ça, c'est des évaluations techniques, des évaluations des quotas, c'est des objectifs à atteindre, toujours pour diminuer les dépenses, c'est tout le temps ça, tant que l'objectif va être...